et dans d'autres villes et cités à travers l'Angleterre, la persécution était encore plus intense. À Colchester, en Angleterre, la persécution était alors extrêmement féroce. Au mois d'octobre, William More, maire de cette ville, vint un premier jour de la semaine et dispersa la réunion des Quakers ainsi nommée et en fit emprisonner quelques-uns. La semaine suivante, il fit de même, et une semaine après, il fit venir une troupe de la cavalerie du comté à la réunion. Ils en battirent certains et causèrent beaucoup de dégâts aux estrades, aux bancs et aux fenêtres du lieu de réunion. Et ensuite le maire employa un vieil homme pour empêcher les gens d'entrer par la porte de la salle de réunion. Celui-ci disait à ceux qui voulaient entrer que le maire l'avait placé là pour les tenir dehors. Or, bien qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas officiers et n'avaient aucun mandat, ils n'opposèrent aucune résistance, mais demeurant dans la rue, ils tinrent ainsi leur réunion paisiblement, ne se sentant pas libres, pour des raisons de conscience, de cesser leur culte public rendu à Dieu, bien qu'à cette saison de l'année il fît froid, et que le temps fût souvent humide. Et cela continua ainsi de nombreuses semaines, malgré tant de difficultés. Au début de décembre, environ 40 cavaliers du roi arrivèrent, à cheval, en armure, avec épées, carabines et pistolets, criant « Qu'est-ce que vous faites ici, au diable ?» Et se jetant violemment sur cette compagnie inoffensive, ils les battirent, les uns avec des épées et les autres avec des carabines, sans distinction d'homme ou de femme, de vieux ou de jeune, jusqu'à ce que beaucoup soient durement meurtris, les pourchassant en tous sens dans les rues. Le premier jour de la semaine suivante, ces furieux revinrent, avec des gourdins en plus des épées et des carabines, ils battirent très cruellement ceux qui se réunissaient paisiblement dans la rue pour adorer Dieu. Cette correction cruelle fut si excessive que certains reçurent plus de 100 coups et furent battus si violemment, noirs et bleus, que leurs membres perdirent leur force naturelle. Un cavalier en frappa l'un de si longtemps que la lame de son épée sortit de la garde. Celui qui était battu le vit et dit au cavalier « Je vais la ramasser et vous la rendre », ce qu'il fit, en ajoutant ces mots « Je souhaite que le Seigneur ne vous impute pas l'œuvre de ce jour. Mais, pour éviter la prolixité, je ne mentionnerai pas toutes les agressions particulières que je trouve avoir été commises là. Ces cruautés continuèrent encore plusieurs semaines, et certains furent si violemment battus que leur sang coula dans les rues, et ils s'effondrèrent et s'évanouirent. Un certain Edward Groan, homme d'environ 70 ans dont je connaissais bien l'épouse et les filles, fut si terriblement assommé qu'il ne vécut que quelques jours ensuite. La période était alors si brûlante que ses adorateurs religieux, lorsqu'ils se rendaient à leur réunion, semblaient aller au-devant de la mort, car ils ne pouvaient se promettre de rentrer chez eux entiers, ni même vivants. Mais malgré tout cela, leur zèle pour leur culte était si vif qu'ils n'osaient pas rester chez eux, quoiqu'un raisonnement humain eût pu les y conseiller. Et certains d'entre eux avaient été des personnes de considération dans le monde, entre autres un certain Gilles Barnadiston, qui, ayant passé 6 années à l'université à étudier les lettres humaines, devint ensuite colonel, mais, avec le temps, ayant entendu prêcher G. Fox le jeune, il fut si entièrement convaincu de la vérité qu'il renonça à son commandement militaire et entra dans la société de ce qu'on appelle Quakers, et demeurant fidèle, il devint avec le temps ministre de l'Évangile parmi le dit peuple. C'était un homme d'esprit doux, et que je connaissais très bien. Ce Barnadiston ne s'abstint pas de fréquenter les réunions, si horrible que fût la persécution, étant pleinement résolu à risquer sa vie avec ses amis. Un certain Solomon Fremantle, marchand que je connaissais bien, fut si cruellement battu qu'il tomba et perdit beaucoup de sang dans la rue, et pourtant les cavaliers barbares ne cessèrent pas de le frapper. Son épouse, fille d'Edward Groan, craignant qu'il ne fût tué, se jeta sur lui pour le couvrir et le protéger des coups, au péril de son propre corps, comme elle me le dit elle-même en présence de son mari. Amour conjugal et fidélité qui méritent d'être mentionnés et consignés. Et bien qu'elle ne reçût pas alors des coups très violents, il y eut toutefois des femmes qui furent durement battues avec des gourdins dans lesquels on avait enfoncé des pointes de fer. Une veuve âgée reçut pas moins de 12 de ces coups sanglants sur diverses parties de son corps, et une autre femme fut transpercée au rein avec un tel gourdin hérissé de pointes. Un vieil homme de 65 en fut poursuivi sur une longue distance par 3 hommes à pied et un à cheval, et si battu et meurtri qu'une femme, prise de pitié pour ce vieillard, parla à ses méchants persécuteurs pour qu'il cesse. Mais cela irrita tellement le cavalier qu'il lui asséna un violent coup d'épée sur l'épaule, avec jurons et invectives. Cette barbarie continua jusqu'à ce que les persécuteurs, épuisés d'avoir battu des innocents, cessent. Ceux-ci semblaient, au contraire, devenir plus courageux à mesure qu'ils persistaient dans ces tribulations, si pénibles fussent-elles. Un grand instigateur de cette violence furieuse fut le capitaine Turné, qui ordonnait à ses cavaliers de commettre ces actes. Sa malice était si grande qu'un jour, en dispersant une réunion, Il donna non seulement l'ordre de battre les gens, mais aussi de détruire la salle, les fenêtres et les murs, de sorte que le dommage s'éleva à 25 livres. Je pourrais maintenant entreprendre un long récit du procès de nombreux prisonniers à Wooste, devant les juges Hyde et Terhill, mais puisque ce procès ressemblait beaucoup, dans sa manière, à celui de John Crook, détaillé dans cet écrit, je n'en ferai qu'une mention sommaire. Lorsque les prisonniers, amenés à la barre, demandèrent pourquoi on les avait gardés si longtemps en prison, on leur répondit par la question de savoir s'ils voulaient prêter le serment d'allégeance, et l'on s'efforça d'amener certains à se trahir, en leur demandant où ils avaient été tel jour. Car s'ils avaient dit, à la réunion, il serait apparu de leur propre bouche qu'ils avaient agi contre la loi, mais ils répondirent prudemment qu'ils n'étaient pas tenus de s'accuser eux-mêmes. D'autres furent accusés, par témoignage, d'avoir été à une réunion, et lorsqu'ils dirent que leur réunion n'était pas toujours pour le culte public, mais qu'ils avaient aussi des réunions pour prendre soin des veuves, des orphelins et d'autres indigents, on dit pourtant au jury que, bien qu'il n'y eût aucune preuve qu'il y eût une prédication lors de la réunion, s'ils croyaient seulement que les prisonniers avaient tenu une réunion pour le culte religieux, cela suffisait pour approuver l'acte d'accusation. Et pourtant, de telles procédures, dans d'autres affaires, auraient été jugées injustifiées. Edward Bourne fut emprisonné pour avoir été à une réunion, puis amené à son procès, où l'on lui proposa le serment. Entre autres paroles qu'il prononça pour sa défense, il dit « Supposons que le Christ et ses apôtres tiennent ici une réunion en ce temps-ci, cet acte contre les conventicules les atteindrait-il aussi ?»« Oh oui, dit le juge, il les atteindrait, mais se ravisant, il ajouta « Je ne répondrai pas à vos questions, vous n'êtes pas des apôtres. » La conclusion fut que Bourne et plusieurs de ses amis furent condamnés à une amende de 5 livres chacun. Or, puisque ceux qui étaient ainsi condamnés n'avaient pas coutume de payer les amendes, jugeant que la chose pour laquelle ils étaient amendés était un devoir indispensable envers Dieu, et qu'ils ne pouvaient donc, en bonne conscience, payer une telle amende, il en résultait généralement l'emprisonnement et la saisie de leurs biens pour le paiement des amendes, de sorte que certains perdirent 2 fois, et peut-être 3 fois, autant que le montant de l'amende. Quelques prisonniers firent valoir qu'ils avaient été ailleurs, et non pas à la réunion, chez un certain Robert Smith, au moment où les témoins l'avaient déclaré sous serment. Pourtant, comme ils ne donnèrent pas de réponse jugée satisfaisante à la question de savoir s'il n'y avait pas été ce jour-là, ils furent réputés coupables. Le dit Robert Smith fut frappé de prémonition, car le serment d'allégeance lui ayant été proposé, et le juge l'ayant menacé d'une prémonition, il demanda pour qui cette loi sur la prestation du dit serment avait été faite, si ce n'était pas pour les papistes. Et soupçonnant que certains de cette persuasion siégeaient au banc, il demanda aussi si eux-mêmes, pour la satisfaction du peuple présent, ne devraient pas également prêter serment. Mais le juge éluda cela, lui disant qu'il devait prêter serment, sinon la sentence serait prononcée contre lui. Smith demanda alors si l'exemple du Christ devait trancher la question, mais le juge dit « Je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous de la doctrine du Christ, mais pour vous instruire de la doctrine de la loi. » Alors Smith fut emmené. Et ensuite, lorsqu'un acte d'accusation pour son refus de prêter serment fut rédigé, on le ramena au tribunal et on lui demanda s'il voulait répondre à l'acte d'accusation ou non. Et les raisons qu'il donna n'étant pas acceptées, le juge dit avant même que Smith finît de parler « Voici votre sentence et le jugement du tribunal. Vous serez exclu de la protection du roi, et vous confisquerez au roi à perpétuité vos biens mobiliers et vos biens immobiliers pendant votre vie. » Astérisque à cela Robert répondit avec calme « Le Seigneur a donné, et s'il décide que cela soit ôté, que sa volonté soit faite. » Ainsi Robert Smith souffrit, avec beaucoup d'autres de ses amis, là et ailleurs, et je crois que toute ma vie ne suffirait pas à décrire tout cela en détail. Astérisque, la prémonition consistait en un emprisonnement à vie, la perte de tous les biens personnels au profit du roi, et la perte des biens immobiliers tant que l'on était en vie. À la mort, les biens immobiliers devaient être rendus aux héritiers légitimes. Les lois de prémonition furent adoptées sous le règne de la reine Elizabeth afin de tenter de découvrir les papistes qui s'engageaient à ramener l'Angleterre sous la domination du pape. Mais le pape déclara dans une bulle pontificale que le mensonge sous serment était permis si ce mensonge aidait à protéger la secte romaine. Ainsi, la loi devint inutile, mais ne fut pas abrogée. Étant toujours en vigueur, elle fut utilisée contre les Quakers, dont on savait qu'ils étaient incapables de prêter serment sur quoi que ce soit, en raison des commandements du Christ et de l'apôtre Jacques. Des dizaines de milliers de Quakers souffrirent d'emprisonnement et de perte de biens parce qu'ils s'étaient engagés à obéir aux commandements du Christ et de Jacques. À Woburgh, dans l'Oxfordshire, ce qu'on appelle Quakers furent aussi gravement maltraités dans leurs réunions religieuses, et même les femmes âgées n'y furent pas épargnées, ce qui faisait souvent monter vers le ciel les cris d'enfants innocents lorsqu'ils voyaient ainsi leur mère maltraitée. que des magistrats eux-mêmes brisent leurs cannes en morceaux sur ce qui s'était rassemblé, n'était qu'une chose ordinaire, et ensuite on se servait parfois d'autres bâtons, souvent aussi on dépouillait les femmes de leurs vêtements du dessus, et cela s'accompagnait du pillage de leurs biens. Que ces persécuteurs fussent ainsi enragés n'était pas étonnant, si l'on considère que certains y étaient excités par leurs enseignants, dont Robert Priest, du même endroit, donna un exemple. Il dit un jour dans son sermon que les lois du roi, même contraires à la loi de Dieu, devaient pourtant être obéies. Tout autre était la doctrine des apôtres Pierre et Jean, lorsqu'ils dirent au conseil juif, « Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous écouter plutôt que Dieu. » Dans le Northamptonshire, où la persécution était aussi très vive, l'évêque de Pittsburgh dit publiquement dans l'église, après avoir ordonné aux officiers d'exécuter la dernière loi contre les réunions séditieuses, contre tous les fanatiques elle a fait son œuvre, sauf contre les Quakers, mais lorsque le Parlement siégera de nouveau, une loi plus forte sera faite, non seulement pour leur enlever leurs terres et leurs biens, mais aussi pour les vendre comme esclaves sous contrat. Ainsi, les hommes d'église épiscopaliens attisaient le feu de la persécution. À York, le pillage des biens fut aussi poursuivi avec acharnement par l'échevin Richardson, et même des garçons et des filles de moins de 16 ans, et donc non passibles de la peine de la loi, furent condamnés à des amendes. Et lorsque les connétables se montrèrent réticents à aider au vol, on les gronda, et l'un fut poursuivi pour n'avoir pas accompli son devoir, parce qu'il avait refusé d'enlever le manteau d'un homme. Mais si je devais mentionner les mauvais traitements commis dans tous les comtés et lieux, quand arriverai-je à une conclusion? Thomas Green, homme grave, avec qui j'ai été très intimement lié, étant en prière lors d'une réunion à Saltbridge dans l'Hertfordshire, fut tiré de ses genoux et traîné dehors, puis amené devant les juges Robert Josselin et Infregor. Ils le condamnèrent à une amende de 20 livres pour avoir parlé ou prêché lors de ladite réunion. Et ils délivrèrent un mandat à John Smith Paul Thompson, connétable, pour saisir des biens ou des propriétés, sur quoi ils entrèrent dans la boutique du dit Thomas Green à Royston et emportaient. Mais cela n'éteignit pas son zèle, car tel un vrai fidèle pasteur, il continua de nourrir le troupeau et d'édifier l'église par son don, en quoi il fut très utile. Une autre fois, les juges Pete Soham et Thomas Mead donnèrent un mandat pour saisir pour 20 livres de biens appartenant au dit Thomas Green, pour avoir prêché lors d'une réunion à Peuchicelle dans l'Essex. Et les officiers, se rendant dans la boutique de Thomas Green, prirent tout ce qu'ils purent trouver, ne laissant dans la boutique qu'une pelote de fil de laine peignée, tombée à terre et qu'ils n'avaient pas remarquée. Théophile Green subit aussi un grand pillage de biens pour avoir prêché lors d'une réunion à Kingston-upon-Thames. Il fut mis au pilori pendant plusieurs heures et condamné à une amende de 20 livres. Et ayant prêché les trois premiers jours de la semaine suivante à Wandsworth, il fut, pour chacun, amendé au même taux. La semaine suivante, se trouvant à Uxbridge et visitant de pauvres enfants de ses amis, dont le père et la mère étaient morts peu après l'un l'autre, il en prit deux comme les siens et s'occupa de placer les autres. Et demeurant là jusqu'au premier jour de la semaine, il alla à la réunion et exhorta ses amis à tenir leur réunion au nom de Jésus. À ces mots, le connétable et l'informateur entrèrent et l'emmenèrent devant le juge Ralph Rothery, qui le condamna à une amende de 20 livres et l'envoya prisonnier à Newgate, à Londres, avec un mandat d'écrou, dans lequel il l'accusait d'avoir exhorté le peuple à tenir leur réunion au nom de Jésus, malgré les lois des hommes contraires. Des mandats ayant été délivrés pour procéder à la saisie en paiement de l'amende susmentionnée, qui s'élevait à 100 livres et 5 shillings, ils vinrent, forcèrent ses portes et emportèrent tous les biens qu'ils trouvèrent, ne lui laissant ni lit ni tabouret. Et après avoir été détenu 3 mois, lui et 7 autres furent conduits à la salle des sessions à Hickerell, et on leur proposa les serments d'allégeance et de suprématie. À quoi son plaidoyer fut, « En tant qu'Anglais, je dois être soit acquitté soit condamné pour la cause pour laquelle j'ai été incarcéré, avant de répondre à toute autre question ou cause. De plus, je me considère comme illégalement détenu, ayant été amendé et incarcéré pour le même fait. Mais on lui dit qu'il devait répondre s'il voulait jurer ou non, et alors il serait entendu. Mais persistant à refuser de prêter serment, il fut renvoyé en prison avec les autres, et ensuite rappelé encore, et toujours peu disposé à enfreindre le commandement du Christ de ne pas jurer du tout, la sentence de prémonition fut lue contre lui et ses compagnons de prison, et ils demeurèrent ainsi en prison plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'ils soient libérés par un acte de grâce du roi. Les réunions de ceux qu'on appelle Quakers furent misérablement troublées à Rosslydown, dans le comté de Surrey. Le 25 septembre, plusieurs mousquetaires entrèrent dans la maison de réunion et traînant ce qui était assemblé dans la rue, les cavaliers arrivèrent au galop parmi et les battirent et maltraitèrent violemment, les poussant avec leurs carabines, comme les autres le faisaient avec la crosse de leurs mousquets, à un point tel que plus de 20 personnes furent blessées et durement meurtries. Non, ces malfaisants étaient si désespérément pervers qu'un groupe de cavaliers chercha à piétiner ces gens inoffensifs, mais les chevaux, plus miséricordieux que leurs cavaliers. Le 2 octobre, ces gens paisibles, ayant été tenus hors de leur lieu de réunion, un groupe d'infanterie et un groupe de cavalerie vinrent parmi eux et les maltraitèrent non moins violemment que la semaine précédente, à tel point qu'en frappant et en cognant ils brisèrent plusieurs de leurs mousquets et piques, ainsi qu'une carabine, et plus de 30 personnes furent si gravement blessées et meurtries que leur sang coula dans les rues. Le 9 du même mois, les soldats à cheval et à pied revinrent à la Réunion au même endroit, et l'un d'eux ayant une pelle, jeta la saleté et la boue des caniveaux gouttières ouvertes d'eau usée sur les hommes comme sur les femmes. Puis après lui, la cavalerie et l'infanterie arrivèrent et se ruèrent sur eux, frappant et renversant sans égard à l'âge ou au sexe jusqu'à faire saigner beaucoup. Et lorsque certains habitants, par pitié, les recueillirent dans leur maison et leur sauvèrent la vie, les soldats forcèrent les portes et les traînèrent de nouveau dans la rue. Certains cavaliers arrachèrent aussi les vêtements des femmes de leurs dos et les traînèrent dans la boue le long de leurs chevaux, et certains soldats à pied mirent les mains d'une manière des plus honteuses sous les jupes des femmes. Non, un soldat frappa deux fois une femme enceinte avec son mousquet au ventre, et une fois à la poitrine, pendant qu'un autre lui jetait de la boue au visage, de sorte qu'elle fit une fausse couche. Et plus de 50 personnes furent ce jour-là grièvement blessées et meurtries. Le 16 de ce mois, ces gens de conscience se réunissant de nouveau pour rendre leur culte à Dieu, un grand détachement de cavalerie et d'infanterie vint et se mit à les battre si violemment, comme s'ils avaient voulu tous les tuer sur place, si bien que le sang coulait autour des oreilles de beaucoup. Et l'un des connétables, s'efforçant d'empêcher la bande scélérate de répandre davantage de sang, ils se jetèrent aussi sur lui et lui brisèrent la tête, et lorsqu'on les reprit pour leur cruauté, certains dirent « Si vous saviez quels ordres nous avons !» Et lorsqu'on leur demanda « Comment pouvez-vous agir ainsi envers un peuple qui n'a pas aucune résistance ni opposition ?» Et ils répondirent « Nous aimerions mieux, et ce serait mieux pour nous, que vous résistiez et vous opposiez. » D'où il apparut clairement que ce méfait était commis pour provoquer une opposition, afin qu'ils puissent tremper leurs mains dans le sang de ces souffrants et faire ainsi de leur vie et de leur bien une proie. On jugea donc opportun d'informer le roi et son conseil de cette cruauté barbare, ce qui pourrait faire d'apporter quelques freins à ces excès de cruauté, quoique leurs abus ne cessassent pas entièrement. Persécution à Boston, note de l'éditeur du site. J'ai remarqué au fil des années que plus on est incertain dans ses incroyances, plus les croyances opposées paraissent menaçantes. Beaucoup de puritains quittèrent l'Angleterre à une époque antérieure pour échapper aux persécutions, fuyant vers les colonies américaines. Il est tragique que, lorsque la foi quaker apparut, les puritains furent les plus violents dans leur opposition. Je suggère que leur foi, fondée sur une observance extérieure extrêmement rigide des règles de la Bible, était si fragile que, lorsque la vérité apparut avec les Quakers, ils furent les plus effrayés. Ils réagirent donc avec désespoir pour éteindre la lumière qui disait que leur foi reposait sur un sol sablonneux, prête à être emportée par la première tempête. Ils persécutèrent férocement les Quakers et quiconque osait prendre soin d'eux. Mais maintenant, posez-vous cette question, votre foi est-elle fondée sur la Bible, ou est-elle fondée sur la connaissance de Dieu au-dedans de vous-même, lui qui vous enseigne, vous guide, vous corrige et vous purifie, tout en étant, bien sûr, conforme au témoignage de la Bible. Pouvez-vous dire que vous avez le même esprit que les apôtres dans la Bible? Vos actions et vos paroles sont-elles gouvernées par l'Esprit Saint en vous? Si vous trouvez ces questions menaçantes, vous comprenez peut-être comment les puritains persécutaient les Quakers. L'esprit de persécution est encore vivant aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de lecteurs chrétiens fondamentalistes de ce site web qui m'ont accusé d'être un ministre de Satan et qui, si l'occasion leur en était donnée, seraient probablement inspirés par leur saint esprit à me frapper pour la gloire de Dieu. Tiré de Valiant for the Truth, au septième mois de l'année 1656, deux femmes amies arrivèrent à Boston, dans le Massachusetts, en provenance d'Angleterre. Elles furent cruellement traitées et enfermées en prison pendant 5 semaines. Nicholas Rapsell, ancien habitant de Boston et chrétien zélé, fut très affligé de l'état de ces pauvres femmes sans soutien. Aucun aliment ne leur étant fourni, il persuada le geôlier de leur en donner, en le payant 5 shillings par semaine. Elles ne furent libérées de prison que pour être renvoyées en Angleterre. Un mois plus tard, un navire chargé d'amis arriva à Boston, et bien qu'aucune loi n'existât alors contre les Quakers, on les jugea trop dangereux pour qu'on leur laissât la liberté, et après une courte détention, on les renvoya en Angleterre. Le gouverneur du Massachusetts, John Endicott, promulgua alors une loi interdisant aux capitaines de navires d'amener des Quakers dans la colonie et menaçant d'emprisonnement quiconque viendrait. L'honnête Nicholas Hopsel fut profondément troublé par cette loi inique, comme elle lui paraissait, et protesta auprès des autorités contre de tels édits, les avertissant de prendre garde, de peur d'être trouvés en train de combattre contre Dieu. Les dirigeants s'indignèrent d'une telle ingérence, et le vieil homme fut condamné à une amende de 20 livres et banni de la colonie. La colonie voisine du Rhode Island offrait un asile à tous ceux qui souffraient en raison de leur religion. Roger Williams, son fondateur, avait été banni du Massachusetts pour ses vues libérales, et en organisant le gouvernement de sa nouvelle patrie, Il déclara que la doctrine de la persécution pour cause de conscience est très manifestement et lamentablement contraire aux doctrines de Jésus-Christ. C'est là, au cœur de l'hiver, que Nishola Apsul dirigea ses pas, et il fut aimablement abrité pendant son voyage par un chef indien, à travers le campement duquel il passa. La redoutée hérésie quake grandit et se développa malgré tous les efforts des dirigeants de la colonie du Massachusetts pour l'enrayer, on adopta donc des lois plus strictes. Une amende fut imposée à tous ceux qui n'assistaient pas au culte public puritain. Nul ne pouvait offrir le moindre rafraîchissement à l'un des Quaker Eyes sans être amendé, et tous ceux qui partageaient leur vue furent condamnés à être fouettés, à se faire couper les oreilles et à se faire percer la langue avec un fer rouge, et si ces mesures ne les amenaient pas à se rétracter, ils devaient être bannis de la colonie. D'après l'histoire de Sewall, à leur arrivée à Boston, William Brant et William Ledra, jugés particulièrement fautifs, furent séparés de leurs compagnons. On les plaça dans une cellule misérable, dont la fenêtre était si obstruée qu'elle les privait non seulement de lumière, mais aussi d'aération, tandis que toute conversation entre eux et les habitants était strictement interdite. Le geôlier, poursuivant la conduite cruelle qu'il avait adoptée envers Thomas Harry, refusa de leur permettre d'acheter de la nourriture, bien qu'ils offrissent de la payer. Mais il leur dit que ce n'était pas leur argent, mais leur travail qu'ils désiraient. Ainsi il les garda 5 jours sans nourriture, puis, avec un fouet à 3 lanières, leur donna 20 coups. Une heure après, il leur dit qu'ils pourraient sortir s'ils payaient le maréchal chargé de les conduire hors du pays. Eux jugeant fort déraisonnable de payer pour être bannis, refusèrent, mais ils dirent toutefois que si la porte de la prison était laissée ouverte, ils s'en iraient. Le lendemain, le geôlier vint vers W. Brant, un homme d'un certain âge, et le mit au fer, cou et cheville si proches l'un de l'autre qu'il ne restait entre eux pas plus d'espace que pour le cadenas qui les fermait. Il le maintint ainsi de 5 heures du matin jusqu'après 9 heures du soir, soit 16 heures. Le lendemain matin, il le conduisit au moulin pour travailler, mais Brant refusant, le geôlier prit une corde goudronnée d'environ 1 pouce d'épaisseur et lui donna 20 coups sur le dos et les bras, avec autant de force qu'il le pouvait, si bien que la corde se défit. Puis s'en allant, il revint avec une autre corde, plus épaisse et plus solide, et dit à Brant qu'il le forcerait à se soumettre à la loi du pays et le ferait travailler. Brant jugea cela non seulement déraisonnable au plus haut point, puisqu'il n'avait commis aucun mal, mais il était aussi tout à fait incapable de travailler, il manquait de force faute de nourriture, ayant été gardé 5 jours sans manger, et fouetté aussi, et maintenant ainsi impitoyablement battu avec une corde. Mais ce geôlier inhumain ne s'adoucit pas, il recommença à frapper ce corps meurtri avec sa corde goudronnée et écumant de la bouche comme un forcené, lui asséna avec violence 97 coups de plus, comme d'autres prisonniers qui en furent témoins avec compassion l'ont raconté, et si sa force et sa corde ne lui avaient pas manqué, il en aurait donné davantage. Il menaça aussi de lui donner le lendemain matin autant de coups encore. Mais une puissance supérieure, qui met des bornes même à la mer déchaînée et a dit « Jusqu'ici tu viendras », et pas plus loin, limita aussi ce bourreau, qui eut pourtant l'impudence suffisante pour dire sa prière du matin. L'état terrible où ses coups mirent le corps de Brant, qui à cause de la grande chaleur, n'avait sur sa chemise qu'une casaque de serge, se conçoit aisément. Son dos et ses bras étaient meurtris et noirs, et le sang pendait comme en poche sous ses bras, et sa chair avait été si martelée qu'on ne distinguait plus la marque d'un coup particulier, car toute sa chair était devenue comme une gelée. Son corps ayant été ainsi cruellement torturé, il s'étendit sur des planches, si extrêmement affaibli que, les forces naturelles défaillant et la vigueur manquant tout à fait, son corps devint froid. Cela semblait comme une lutte entre la vie et la mort, ses sens étaient arrêtés, et pendant un temps il ne vit, ne sentit ni n'entendit, jusqu'à ce qu'enfin une puissance divine prévalant, la vie triompha de la mort, et le souffle du Seigneur fut insufflé dans ses narines. Or, la nouvelle de cette cruauté se répandit parmi les gens de la ville et provoqua un tel tollé que le gouverneur envoya son chirurgien à la prison pour voir ce qu'on pourrait faire. Mais le chirurgien trouva le corps de Brant dans un état si déplorable que, comme quelqu'un sans espoir, il dit que sa chair pourrirait sur ses os avant que les parties meurtries puissent guérir. Cela exaspéra tellement le peuple que les magistrats, pour prévenir une émeute, affichèrent un papier sur la porte de leur maison de réunion, et dans les rues, dénonçant cette cruauté abominable et des plus barbares, et disant que le geôlier serait jugé à la prochaine cour. Mais ce papier fut bientôt retiré sur l'instigation du grand prêtre John Norton qui, depuis le début, avait été un ardent promoteur de la persécution, et n'hésita pas à dire « W. Brant a voulu mettre nos ordonnances de l'Évangile en pièces noires et bleues, s'il est battu noir et bleu, c'est justice rendue, et je comparaîtrai en faveur de celui qui l'a fait. » Il n'est donc guère étonnant que ces magistrats scrupuleux et bigots, réputés éminents pour leur piété, aient été si cruels dans la persécution, puisque leur principal enseignant les y encourageait ainsi méchamment. Ce qui suit est une compilation de l'histoire de Sewall et d'un petit extrait de James Bowden, The History of the Society of Free and in America, ouvrage complet disponible à la lecture sur ce site. Après avoir travaillé pendant quelques semaines à l'œuvre du ministère, dans les environs de Providence et de Newport, Christopher Rold et John Copeland ressentirent un appel religieux à se rendre à Boston. Ils y avaient déjà éprouvé l'emprisonnement et le fouet aux nœuds, et ils n'ignoraient pas qu'au retour de ceux qui avaient été bannis du Massachusetts, comme eux, la perte d'une de leurs oreilles serait probablement la peine infligée. Mais ces hommes fidèles, se sentant assurés que leur appel venait d'en haut, obéirent humblement à cette demande, croyant que celui qui avait auparavant été leur aide et leur bouclier ne les abandonnerait dans aucune extrémité à laquelle ils pourraient être exposés pour l'amour de la vérité. Quittant Providence le 3 du 6e mois 1658, ils arrivèrent le même soir dans la ville de Dedham. À Dedham, ils y logèrent une nuit, mais le lendemain, ils furent appréhendés par un connétable et conduits à Boston, où s'amenés devant le gouverneur, celui-ci dit avec rage « Soyez-en sûrs, on vous coupera les oreilles ». Ils les envoyèrent à la maison de correction avec l'ordre suivant, au gardien de la maison de correction par la présente, « Vous êtes requis de prendre sous votre garde les personnes de Christopher Rold et John Copeland, et de les garder sûrement, les tenant strictement au travail, ne leur donnant que le régime des prisonniers, jusqu'à ce que leurs oreilles soient coupées, et de ne leur permettre de converser avec personne tant qu'ils seront sous votre garde. » Edward Rawson, secrétaire, en exécution de cet ordre, les deux amis furent gardés sous étroite détention, et le geôlier impitoyable, poursuivant sa conduite habituelle envers de tels prisonniers, les empêcha pendant plusieurs jours d'avoir de la nourriture, parce qu'ils refusaient de travailler à son commandement. Peu de temps après, John Roux revint à Boston, mais fut bientôt arrêté et jeté en prison. Le 17 septembre, lui, avec Rold et Copeland, furent amenés devant les magistrats au tribunal. À leur vue, le cruel gouverneur Endicott entra dans une rage agitée, « On vous coupera les oreilles ». Le lieutenant-gouverneur leur dit qu'il méprisait les magistrats et les ministres, étant revenu pour séduire le peuple, et qu'il devait donc savoir que quoi qu'il leur arrivât, qu'il s'agisse de la perte de leurs oreilles ou de leur vie, leur sang retomberait sur leur propre tête. Unièrent et dire que le Seigneur les avait envoyés là. Le gouverneur, Endicott, répliqua, « Vous êtes pour nous de plus grands ennemis que ceux qui viennent ouvertement, car sous prétexte de paix, vous venez empoisonner le peuple. » Que des hommes, emprisonnés, fouettés et bannis pour leurs opinions religieuses, persistent encore à les défendre avec la certitude d'encourir des sévérités accrues, était ce que l'esprit obscurci d'Endicott ne pouvait comprendre, il dit, « Quoi, vous demeurez dans la même opinion qu'auparavant ?» Les prisonniers répondirent avec douceur, « Nous demeurons dans la crainte du Seigneur, le Seigneur Dieu nous l'a commandé, et nous ne pouvions qu'obéir et venir. » Le gouverneur s'écria, « Le Seigneur vous a commandé de venir, c'était Satan. » Interrogés pour fournir la preuve que le Seigneur les avait envoyés, ils répondirent que c'était en quelque sorte une preuve que le Seigneur les avait envoyés, puisqu'ils subissaient le même traitement que le Christ avait dit à ses disciples qu'ils souffriraient pour son nom, comme les coups de fouet, etc. À cela, le major général Denison dit, « Alors, quand des malfaiteurs sont fouettés, ils souffrent pour l'amour du Christ. » Alors John Roux, dont le père était lieutenant-colonel à la Barbade, dit, « Si nous étions des malfaiteurs, les jugements de Dieu seraient plus lourds sur nous que ceux que nous souffrons par vous. » À quoi le major Denison répondit, « M. Roux, car je puis vous appeler ainsi, ayant entendu dire que votre père est un gentilhomme, quel jugement de Dieu attendez-vous de plus grand que celui qui est sur vous ? Être chassé de la maison de votre père et courir ici comme un vagabond avec une compagnie de trompeurs, à moins que vous n'attendiez la corde. » À cela Roux dit, « Je n'ai pas été chassé de la maison de mon père, mais par obéissance au Seigneur, je l'ai quitté, et lorsque le Seigneur m'aura dégagé de ce pays, j'y retournerai. » Alors Endicott demanda au secrétaire de lire la loi, qui lut ensuite cette clause, que si quelqu'un ayant été jugé par la loi présumé revenir, on lui couperait une de ses oreilles. Quelques autres paroles furent échangées et, entre autres, Endicott dit, « Les Quakers n'ont rien pour prouver leur mission que l'esprit en eux, et c'est le diable. » Et lorsque l'un des prisonniers dit, « Nous avons vu certaines de vos lois qui ont beaucoup d'écritures en marge, mais quel exemple avez-vous dans l'écriture pour couper des oreilles ?» Endicott demanda, « Quelle écriture y a-t-il pour pendre ?» À quoi Denison dit en raillant, « Oui, il voudrait être crucifié. » Alors Endicott appela les trois prisonniers par leur nom et dit avec grande passion, « C'est la sentence du tribunal, que vous trois ayez chacun l'oreille droite coupée par le bourreau. » Les prisonniers furent conduits dans une autre pièce, où John Roux dit au maréchal, « Nous avons fait appel au principal magistrat d'Angleterre. » Celui-ci répondit qu'il n'avait rien à voir avec cela. Rold dit, « Une exécution comme celle-ci devrait être faite publiquement et non en privé, car cela était contraire à la loi d'Angleterre. » Mais le capitaine Oliver répondit, « Nous le faisons en privé pour vous empêcher de bavarder. » Alors l'exécuteur prit Rold et, après avoir écarté ses cheveux, alors qu'il allait lui couper l'oreille, le maréchal lui tourna le dos, ce qui amena Rouse à dire « Retournez-vous et regardez », car tel était son ordre. Le maréchal alors, bien que rempli de peur, se retourna et dit « Oui, oui, regardons cela ». Roux, plus intrépide que son persécuteur, subit la même chose, ainsi que le troisième, et ils dirent « Pour ceux qui font cela par ignorance, nous désirons de tout notre cœur que le Seigneur leur pardonne, mais pour ceux qui le font avec malice, que notre sang retombe sur leur tête, et cela sauront, au jour des comptes, que chaque goutte de notre sang pèsera sur eux comme une meule. » Ensuite ces personnes furent fouettées. « Dans la force de Dieu, disent les prisonniers, nous avons souffert avec joie, ayant librement abandonné non seulement une partie de notre corps, mais notre corps tout entier, si le Seigneur l'exigeait, pour sceller notre témoignage que le Seigneur nous a donné. » Le 7 du 8e mois, John Roux, Christopher Rold et John Copland furent libérés de prison, le premier ayant été détenu 6 semaines, et les deux autres 9 semaines. Même les enfants n'y échappèrent pas. Dans certains cas, ils furent condamnés à être vendus comme esclaves aux Bermudes, en paiement des amendes infligées à leurs parents. Saul poursuit, avec deux récits révélateurs de persécution d'enfants, Lawrence et Cassandra Southwick de Boston, avaient été emprisonnés pour ne pas avoir assisté au culte public puritain. Leurs enfants, voyant la perfidie des autorités religieuses, refusèrent eux aussi d'assister aux offices. Ils furent condamnés à une amende de 10 livres chacun et, n'ayant pas d'argent pour la payer, le trésorier du comté, Edmund Butler, muni d'une autorité législative, décida de les vendre comme esclaves à la Barbade. Cependant, il ne put trouver aucun capitaine de navire disposé à participer à un projet aussi diabolique, l'un d'eux alla même jusqu'à prétexter que les prisonniers gâteraient la compagnie du navire. À quoi Butler répondit « Non, vous n'avez pas à craindre cela, car ce sont de pauvres créatures inoffensives et elles ne feront de mal à personne. » « Ils ne feront pas de mal, répliqua le capitaine, et vous osez proposer de faire des esclaves de telles créatures. » Ainsi, leur malice délibérée, sous un faux prétexte, fut dévoilée et par inadvertance admise. Heureusement, les enfants ne furent pas transportés, mais renvoyés chez eux pour se débrouiller, leurs parents étant toujours en prison. On rapporte aussi qu'une fillette d'environ un an nommée Patience Scott, dont la mère, pour des raisons religieuses, avait été cruellement fouettée par ces gens, rendit témoignage contre leur méchante persécution, ce qui irrita tellement ses persécuteurs qu'ils envoyèrent l'enfant en prison. Et l'enfant ayant été interrogé parla si bien à propos qu'elle confondit ses ennemis. Certains d'entre eux avouèrent qu'il avait beaucoup d'enfants bien éduqués et qu'il serait bon s'il pouvait dire la moitié autant pour Dieu qu'elle pouvait en dire pour le Dieu. Mais l'enfant était si jeune qu'ils ne purent se résoudre à la bannir, comme il le faisait pour d'autres. Mais c'est dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre que la peine extrême de mort fut infligée à ceux dont le plus grand crime, aux yeux de leurs juges, était d'être Quakers. Il a déjà été fait mention des persécutions auxquelles certains de cette secte Quaker High furent soumis. Et en 1655, la Cour générale de Plymouth publia une proclamation les dénonçant comme « publiant des écrits dangereux et horribles » et déclarant que quiconque serait reconnu coupable de partager leurs opinions serait banni de la colonie sous peine de mort. En vertu de cette loi, 4 personnes reçurent l'ordre de quitter la juridiction. Il s'agissait de William Robinson, Marmaduke Stephenson, William Ledra et Mary Dier, qui étaient venus à Boston pour travailler pour leur seigneur. Obéissant à cet ordre, ils quittèrent la ville, mais William Robinson et Marmaduke Stephenson ne purent se satisfaire d'aller plus loin que Salem. Là, ils passèrent la nuit chez quelques amis et le matin, après des adieux affectueux, ils repartirent vers Boston avec quelques personnes qui résolurent de les accompagner. Cela ressemblait presque à un cortège funèbre, tant ils allaient calmement mais solennellement à leur perte, suivant ce qui leur semblait être la direction de leur seigneur. À leur arrivée en ville, ils furent bientôt arrêtés et écroués. Le mois suivant, Mary Dier revint et fut elle aussi mise en détention. Les prisonniers furent alors traduits devant le tribunal et condamnés à mort. Le jour fixé pour l'exécution, une troupe de 200 hommes armés, outre de nombreux cavaliers, fut mobilisée pour escorter ces Quakers inoffensifs et désarmés jusqu'à la potence. Les prisonniers furent placés au centre, avec un tambour à côté d'eux, à qui l'on ordonna de faire assez de bruit pour couvrir leur voix s'ils tentaient de parler à la foule qui les suivait. Les prisonniers eux-mêmes étaient en paix. On nous dit qu'ils y allèrent avec une grande joie, comme un festin de noces éternelles. Les hommes furent pendus d'abord, puis Mary Dier monta sur l'échafaud, mais au moment où l'on passa la corde autour de son cou, on entendit un cri « Elle est graciée ». Son fils avait intercédé avec tant d'insistance que sa vie lui fut accordée, à condition qu'elle quitte la colonie sur le champ. Au printemps 1660, Mary Dier se sentit poussée par le Seigneur à retourner à Boston et se retrouva bientôt à nouveau dans son ancienne prison. Conduite devant le tribunal, le gouverneur, John Endicott, lui demanda si elle était bien la même Mary Dier, ce à quoi elle répondit « Je le suis ». Elle donna ensuite la raison de son retour. Elle croyait que le Seigneur l'avait envoyée pour les supplier d'abroger leurs lois perverses et pour les avertir qu'il punirait assurément ceux qui s'opposaient à sa volonté. Le gouverneur Endicott fut brutal et ordonna qu'elle soit pendue à 9 h le lendemain. Le matin arriva. Boston Common offrait un spectacle indésirable. Des groupes de femmes, saisies d'effroi, parlaient à voix basse du triste sort qui attendait une femme qui, comme elle, était épouse et mère. Des enfants regardaient, avec étonnement et terreur, le lugubre gibet dressé devant eux et se demandaient quelle chose mauvaise cette femme avait pu faire pour qu'on doive la pendre, tandis que des hommes robustes, qui dénonçaient le zèle erroné des Quakers, pouvaient reconnaître qu'ils étaient une secte honnête. Bientôt retentit le son du tambour et du fifre, et une compagnie de soldats passa, puis vinrent des hommes battant bruyamment leurs tambours, et à leur côté, marchait calmement et sereinement l'héroïne du jour, la Quaker niée et méprisée. Elle monta sur l'échafaud et, lorsqu'on lui offrit de nouveau la vie, à condition qu'elle quitte Boston pour toujours, elle répondit « Non, je ne puis promettre. Par obéissance à la volonté du Seigneur je suis venue, et dans sa volonté je demeure, fidèle jusqu'à la mort. » Le signal fut donné, la trappe s'ouvrit sous elle, et ce témoin fidèle tomba vers la mort, rentrant auprès de Jésus pour être avec lui pour toujours. Bien qu'il fût en prison en Angleterre, George Fox déclara qu'il savait exactement quand les pendaisons avaient eu lieu et qu'il pouvait sentir le nœud coulant autour de son cou. Ceux qui sont dans le royaume peuvent voir et entendre les expériences des autres. Beaucoup d'autres Quakers, ou même se surpris à se montrer bienveillants envers des Quakers, furent cruellement fouettés, au point d'arracher tout ou presque toute la chair de leur dos et de leur flanc. La première femme prédicatrice Quaker fut Elizabeth Houghton, l'une des vaillants 60 envoyées par le Christ à travers l'Angleterre pour prêcher le véritable Évangile. En 1661, âgée de 65 ans, Elizabeth partit pour l'Amérique pour un voyage missionnaire, arrivant à Boston en 1662. En raison des lois puritaines contre les Quakers, elle eut de grandes difficultés à obtenir de la nourriture ou un abri. Alors qu'elle rendait visite à des Quakers en prison, elle fut conduite devant le gouverneur, John Endicott, qui, après l'avoir insultée, l'envoya en prison. Elle fut ensuite emmenée à 2 jours de marche dans la forêt et abandonnée là pour mourir de faim. Elle parvint à trouver son chemin jusqu'à Rhode Island, obtint une place sur un navire pour la Barbade, retourna à Boston et, après un bref séjour, revint en Angleterre. Ayant obtenu du roi Charles Yee une autorisation de s'établir dans n'importe laquelle des colonies américaines, Elizabeth Houghton retourna à Boston, où elle tenta de s'installer, mais constata que l'autorisation du roi était déclarée invalide par les règles de la ville. Elle se rendit alors à Cambridge où, parce qu'elle ne voulait pas renier sa croyance, elle fut jetée dans un cachot et tenue sans nourriture ni boisson pendant 48 heures. Une personne qui tenta de lui donner de la nourriture fut condamnée à une amende de 5 livres. Par la suite, le tribunal ordonna qu'elle soit fouettée à travers 3 villes, ce qui fut fait au cœur de l'hiver et avec une grande sévérité. Elle fut ensuite de nouveau emmenée au plus profond de la forêt et abandonnée. Elle retrouva encore une fois son chemin vers une ville où elle fut aidée, puis repartit. Après avoir visité Rhode Island, elle retourna à Cambridge, où elle fut de nouveau soumise à des traitements barbares. Elle et sa jeune fille, qui l'accompagnaient, furent dénudées jusqu'à la taille et fouettées, tout en étant traînées dans la neige derrière une charrette sur un total de 80 milles, lorsqu'elles traversèrent 3 grandes villes puritaines. Les puritains traitaient aussi bien les hommes que les femmes Quakers de sorciers, possédés par le diable. Une biographie plus complète de la vie d'Elizabeth Houghton est disponible sur ce site pour votre lecture. Au moins 27 Quakers supplémentaires devaient être exécutés par les puritains calvinistes congrégationalistes de Boston, un ou plusieurs furent exécutés avant leur intervention. Fox était toujours en prison, si bien qu'Edward Burrough se rendit auprès du roi et le supplia immédiatement de faire cesser les exécutions. Le roi Charles en fut touché et ordonna que tous les Quakers, emprisonnés à vie ou promis à l'exécution, soient ramenés en Angleterre et remis en liberté. Le roi Charles publia aussitôt un mandamus, un ordre juridique émanant du roi, auquel les juridictions inférieures ne pouvaient en aucune manière se soustraire, condamnant cette pratique et exigeant que tous les Quakers condamnés soient promptement renvoyés en Angleterre. Un groupe de Quakers, à ses propres frais, mit rapidement les voiles vers la Nouvelle-Angleterre, le mandamus du roi en main, et les amis furent soudainement et spectaculairement arrachés à la prison et à leurs exécutions programmées. Plus tard, en Angleterre, George Fox rencontra certains de ses persécuteurs de Boston, et leur posa des questions si pénétrantes que cela les couvrit profondément de honte, et ils reconnurent leur culpabilité dans le meurtre des Quakers. Craignant d'être poursuivis par les proches de ceux qui avaient été assassinés, ils s'enfuirent de nouveau vers la Nouvelle-Angleterre. Même lorsqu'il était, quoique rarement, possible de poursuivre leurs persécuteurs en justice, les Quakers refusèrent systématiquement de le faire, les laissant au jugement de Dieu. Mais Dieu ne fut pas aussi retenu. Les fiers persécuteurs puritains chrétiens du Massachusetts connurent des morts étranges et dramatiques, reconnaissant parfois qu'il s'agissait du jugement de Dieu. John Endicott, le gouverneur brutal qui en avait fait fouetter tant que toute la chair de leur dos en était détruite, fut lui-même frappé d'un mal par lequel son dos se mit à pourrir lentement, avec une puanteur qui faisait fuir quiconque aurait voulu le soulager. Il est remarquable que beaucoup de ceux qui furent au premier rang de la persécution des amis en Nouvelle-Angleterre furent soit fauchés soudainement, soit finirent leurs jours misérablement. Bellingham mourut en proie au délire, Adderton fut désarçonné et mourut sur le coup, Norton, ministre à Boston, mourut subitement, ses derniers mots étant « La main, ou les jugements de Dieu sont sur moi ». Mais toute la région de Boston subit un jugement encore plus étrange, citant Soule. Tant je puis mentionner ici une chose remarquable, à laquelle, lorsque je l'ai entendue pour la première fois, je ne pouvais pleinement ajouter foi, mais pensant qu'il valait la peine d'en faire une enquête approfondie, je le fis non seulement par écrit, mais aussi de la bouche de personnes qui en avaient été témoins oculaires, ou qui avaient été informées par de tels témoins. Et j'en tirai cette observation concordante, à savoir que la contrée autour de Boston était autrefois un sol très fertile qui produisait d'excellents blés, mais que Mais comme il y eut tant d'exemples répétés d'infertilité plus près de la ville, les personnes âgées encore en vie, qui se souviennent des premières années, s'accordent généralement à penser que c'était là un jugement du ciel et une malédiction sur la terre, à cause du sang innocent versé à Boston. J'ai reçu ce récit de tant de personnes dignes de foi, bien que l'une ne sût rien de l'autre, tant elles différaient dans le temps, et pourtant ce qu'elles m'ont rapporté s'accordait si bien sur l'essentiel que je ne pouvais que le croire, bien que je n'aie pas été au départ disposé à y ajouter foi, et c'est pourquoi j'ai été d'autant plus exact dans mon enquête, de sorte que je ne puis plus mettre le fait en doute, mais il me semble que c'est une punition pour cette soif de sang qui a cessé depuis longtemps. Caïn qui était du mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. 1 Jean 3, 11-12 Ce qui précède n'est qu'un petit échantillon des souffrances des Quakers en Nouvelle-Angleterre. L'histoire des souffrances en Nouvelle-Angleterre, en beaucoup plus grand détail, est également disponible sur ce site. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.